très intelligent et calculateur. Il a été très difficile de trouver des moyens de pression et des moyens de le contraindre. Il m'a menacé un jour et m'a dit « Boris, je ne veux pas vous blesser, mais avec un missile, ça ne prendrait qu'une minute. »
Poutine a ébranlé les fondements de la sécurité internationale. Décennie d'affrontements avec l'Occident qui a vu Poutine prendre le chemin de la guerre. Les gens qui lui ont fait face racontent.
J'ai dit au président Poutine que c'était une situation sans issue.
J'ai été clair. On ne pouvait pas faire comme si de rien n'était avec la Russie.
Les frappes de Poutine se rapprochent.
Rien n'est laissé au hasard. On doit examiner toutes les possibilités de répondre à une provocation scandaleuse.
L'Europe et l'Amérique affrontent leur plus grande épreuve depuis des décennies.
On a tout fait pour essayer de les convaincre de changer leur plan. Jusqu'à ce que les chars roulent et que les avions volent.
L'enjeu pour Poutine était son projet de reconstruction de l'Empire soviétique.
J'ai dit, si demain la Russie occupe l'Ukraine, j'ai une question pour vous. Pourquoi ne me donnez-vous pas aujourd'hui les moyens pour l'en empêcher?
Trump est devenu président des États-Unis alors que les allégations d'ingérence russe dans son élection se succédaient.
J'ai appelé la Maison-Blanche pour féliciter Trump. Et j'ai vraiment essayé de me préparer à cette conversation téléphonique car je doutais que l'Ukraine soit sa priorité. Le message que j'ai adressé à Trump depuis le début était « Ne faites pas confiance à Poutine ».
L'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, l'Ukraine faisait pression sur les États-Unis pour qu'ils leur envoient ses missiles anti-chars Javelin. Obama avait déjà refusé, se méfiant de l'escalade des tensions avec la Russie. Poroshenko pouvait présenter son projet à Trump.
Poroshenko était en sueur et très nerveux. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage en entrant dans le bureau. Il était très agité parce que beaucoup de choses étaient en train de se jouer.
Nous étions sous occupation russe. À cette époque, la Crimée était occupée. À cette époque, le Donbass était occupé.
J'ai bien accueilli Poroshenko. C'est un homme d'affaires brillant, tout comme Trump. Je pense que c'est pour ça qu'ils se sont bien entendus.
Monsieur le Président, nous avons besoin d'armes létales. Les Javelins sont des armes anti-chars très efficaces.
Poroshenko a su démontrer que l'occupation russe continuait d'avoir un effet dévastateur sur le peuple ukrainien et les forces armées. Trump a reconnu que l'Ukraine était soumise à de sérieuses contraintes et qu'elle avait besoin de capacités de dissuasion.
J'étais fier d'être sorti du bureau ovale avec des ailes dans le dos. J'étais également fier que le président Trump m'ait promis des missiles Javelin. C'était un grand jour.
La réalité n'était pas si simple. Rendu au sommet du G20 deux semaines plus tard, Trump n'avait toujours pas signé cet accord. Poutine en personne pour la première fois.
Et le président Poutine nous ont clairement laissé entendre qu'il serait évidemment très hostile s'il y avait des transferts d'armes, en particulier de missiles anti-char Javelin vers l'Ukraine.
C'est possible au fait que tout ce qu'on ferait pour aider l'Ukraine mettrait la Russie en colère. Il avait, faute de mieux, un intérêt à être ami avec le président Poutine.
Considérerait son comportement.
Clinton, l'équipe de sécurité nationale, tentait de persuader Trump de tenir sa promesse à Poroshenko.
Un char russe ne serait touché par un missile Javelin s'il n'attaquait pas l'Ukraine. Pas un soldat russe ne serait blessé ou tué par des munitions fournies par les Américains s'il n'attaquait pas l'État souverain qu'est l'Ukraine.
J'ai essayé de démontrer que la Russie profitait des faiblesses Et je crois que la Russie a envahi l'Ukraine en 2014 parce que Poutine s'est dit « je peux m'en tirer et les Américains ne feront rien ». Donc je pense que fournir des capacités défensives à l'Ukraine était important pour dissuader la Russie. Le président Trump a accepté.
17. Trump a donné l'ordre d'envoyer des armes létales à l'Ukraine.
À la décision du président Trump, c'était que les Américains avaient dépassé les limites. Il a été convaincu d'envoyer ses javelines, et bien sûr, ce n'était que le début de l'armement de l'Ukraine. Le début d'un chemin très dangereux.
Le fait que les États-Unis fournissent au régime des armes létales, je pense qu'il l'a perçu comme une menace. Poutine pensait que l'Ukraine était illégitime, qu'elle avait été arrachée à l'Union soviétique, à la Russie. Il a clairement dit qu'il considérait l'éclatement de l'Union soviétique comme la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle.
Depuis 1991, 13 ex-pays communistes ont rejoint l'OTAN et l'Ukraine veut en faire de même. L'invasion de la Crimée par Poutine en 2014, l'OTAN a renforcé sa présence le long de la frontière russe, notamment en déployant des systèmes de défense antimissiles. En Ukraine, Poutine a utilisé ce qu'il considérait être une menace envers l'Occident comme argument électoral.
De quelque chose de concret ou simplement une démonstration de force. Pour essayer de dire, c'est moi l'homme fort ici, je pourrais le faire si je le voulais.
La première ministre britannique allait devoir faire face à une menace russe sur son propre territoire.
Un particulier m'a prévenu qu'un père et sa fille avaient été pris d'un malaise à Salisbury. Quand on m'en a parlé la première fois, ce n'était pas tout à fait clair. Mais assez rapidement, c'est devenu évident qu'il s'agissait de l'utilisation d'une arme chimique, un agent neurotoxique.
Pour identifier les victimes, on a su que ça avait un lien probable avec la Russie. L'arme chimique utilisée était un Novichok, un agent innervant développé à l'époque de l'Union soviétique. Donc assez rapidement, ça nous a permis d'identifier notre principal suspect, l'État russe.
C'était un pays, en ont expulsé aussi quelques-uns. L'Ukraine, 13. Fantastique.
A immédiatement réagi en expulsant des diplomates britanniques et ceux de tous les pays qui avaient soutenu Theresa May. Poutine a remporté une victoire écrasante aux élections présidentielles. Depuis Staline, personne n'était resté aussi longtemps au pouvoir en Russie. Il a déclaré que l'une des priorités de son nouveau mandat serait de régler un problème vieux de plusieurs années.
Les gens ont convenu que leur conseil de sécurité nationale respectif ait des contacts plus directs. Et donc je me suis dit que c'était une bonne façon de parler du contrôle des armes, y compris du traité FNI.
Traiter sur les forces nucléaires à portée intermédiaire mettait un terme aux années de tension de la guerre froide à propos des missiles en Europe et en URSS. Depuis, les preuves de violation du traité par la Russie s'accumulaient. Des missiles de portée intermédiaire étaient développés et stationnés aux frontières de l'Europe.
On considérait que les Russes avaient gravement violé le traité depuis plus de 10 ans. Et ça n'avait pas de sens que les États-Unis soient liés par un traité auquel les Russes n'étaient pas liés. C'était évidemment inacceptable.
L'équipe de Trump s'est rendue à Moscou pour discuter du traité avec Poutine. Pendant leur vol, l'annonce du président a eu l'effet d'une bombe.
Pendant que nous étions dans l'avion, qu'a fait le président Trump? Il a immédiatement prévenu la presse que les États-Unis se retireraient du traité FNI.
Jeune à cette époque, mais je faisais partie de l'équipe qui a négocié ce traité à Genève avec les Américains. Et je pense que c'est l'un des meilleurs traités que nous ayons conclus, car il est très simple. Simple en termes de vérification et de confiance mutuelle.
Je pensais que sur le grand sceau des États-Unis, l'aigle avait des branches d'olivier dans l'une de ses serres.
Et nous maintenir dans le traité FNI, alors qu'ils développaient en parallèle des armes pour répondre à leurs préoccupations de sécurité. Le président Poutine a dit à l'ambassadeur Bolton, d'accord, nous n'appliquerons plus le traité FNI. Que va-t-il se passer ensuite? Comment allons-nous gérer les forces nucléaires de portée intermédiaire?
nuclear forces.
Ces missiles atteindraient Moscou en 7 ou 8 minutes. Je ne me souviens plus de tous les détails. Donc le risque de guerre serait beaucoup plus élevé avec que sans ces missiles.
Surtout inquiet de ce que les États-Unis allaient faire en Europe, une fois qu'on en aurait la capacité. Sauf que c'est lui qui constituait une menace au départ, en stationnant des missiles non conformes.
Les pays les plus menacés par les missiles de Poutine étaient membres de l'OTAN.
La position allemande était de dire « c'est une décision très importante. Nous devons nous assurer d'avoir épuisé toutes les options possibles afin de sauver le traité. Ce ne serait pas sage de précipiter les choses. Nous devons nous mettre d'accord sur la marche à suivre et en premier lieu donner à la Russie une chance de se conformer à nouveau. Et cela demanderait de s'engager davantage avec la Russie. »
Fonctionne, les Alliés allaient aussi devoir convaincre le président Trump de ralentir. À Buenos Aires, la chancelière Merkel a vu une opportunité.
Elle a dit « Toutes nos vies à cette époque ont été façonnées par la peur de la confrontation nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique en Allemagne de l'Est. » Et elle nous a dit que son ministre des Finances, M. Schulz, avait été en première ligne des protestations contre les armes nucléaires. Elle a dit « Cela signifie vraiment quelque chose pour nous. Et c'est vraiment important que nous fassions partie des discussions à ce sujet. » Ça a vraiment eu un impact sur le président Trump. Il a réalisé que c'était une toute autre histoire dans laquelle l'Europe avait un rôle à jouer.
Résoudre le problème et a demandé 60 jours. Et c'était surtout une décision des Américains. Elle a dit, c'est un problème très important qui m'inquiète. Peut-on le résoudre et accepter ce délai? Et Donald, pouvez-vous y réfléchir à nouveau?
Accepter le délai. Il a donné 60 jours à Merkel pour convaincre les Russes de respecter à nouveau le traité FNI. Avant l'expiration du délai, la Russie a envoyé l'un de ses meilleurs diplomates à l'OTAN. À moins d'une concession sérieuse, le traité semblait enterré.
Elle était très tendue.
Oui.
On a expliqué notre inquiétude et on attendait que la Russie détruise tous ces systèmes qui violaient le traité FNI. La Russie était représentée par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, qui a clairement déclaré « Le problème, c'est l'OTAN, le problème, ce sont les États-Unis, mais le problème, ce n'est pas la Russie. »
J'ai dit « Nos efforts sont sincères pour essayer de sauver le traité FNI et on aimerait beaucoup chercher des moyens de travailler avec vous pour résoudre ce problème. » Il a juste secoué la tête et a dit « La relation va dans la mauvaise direction et il n'y a aucun moyen de résoudre le problème avec l'OTAN. » Il avait des instructions strictes pour mettre un coup de massue à l'OTAN.
À un moment où Poutine avait déjà agité la menace d'une nouvelle guerre froide.
En
2019, Poutine a investi 65 milliards de dollars dans son budget militaire, mettant la Russie au quatrième rang mondial des dépenses d'armement. Arctique au Moyen-Orient. Mais c'est la menace qui pesait sur ses voisins immédiats qui suscitait le plus d'inquiétude. Emmanuel Macron ne cache pas son inquiétude face à la détérioration des relations entre l'Occident et la Russie.
Le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité si nous ne pacifions pas et ne clarifions pas nos relations avec la Russie. Je pense en plus que pousser la Russie loin de l'Europe est une profonde erreur stratégique. Parce que nous poussons la Russie soit à un isolement qui accroît les tensions, soit à s'allier avec d'autres grandes puissances comme la Chine, ce qui ne serait pas du tout notre intérêt.
Auparavant, Macron avait invité Poutine au fort de Brégançon pour une rencontre bilatérale. Le frein aux relations était l'Ukraine. Pour essayer d'avancer,
et la chancelière Merkel, nous aurons à considérer l'opportunité, ce qui est mon souhait, d'un nouveau sommet dans les prochaines semaines.
Volodymyr Zelensky, un ancien comédien, a remporté les élections présidentielles ukrainiennes. L'une de ses priorités a été de gérer le conflit en cours dans l'est de son pays.
crois que moi,
je viens de sortir de la situation. On ne pouvait pas changer nos voisins ni déplacer notre pays. On devait trouver un moyen de vivre. Quand je dis vivre, je veux dire vivre, pas seulement survivre, et se développer. C'est pourquoi nous devons trouver un moyen de mettre fin à la guerre.
Le Donbass faisait encore des victimes, malgré le cessez-le-feu conclu par Poutine et le prédécesseur de Zelensky. Ce cessez-le-feu, connu sous le nom des accords de Minsk, avait été signé 4 ans plus tôt, alors que les forces soutenues par la Russie menaçaient de renverser l'armée ukrainienne. Après sa prise de fonction, Zelensky a eu l'occasion de confronter Poutine au sujet de ces accords lors d'un sommet organisé par le président français.
Réunion très tendue, la première réunion des présidents. Le président Macron essayait de faire connaissance avec tout le monde. Il nous a promis un bon dîner à la française avec un bon vin ensuite, sûrement pour éviter qu'on ait une longue conversation.
Poutine, est-ce que Minsk fonctionne ?
Non.
Quelque chose a changé au fil du temps ?
Non.
Combien de personnes a-t-on perdu ?
15 000.
J'ai dit, vous avez signé ces accords avant que je sois président de l'Ukraine. Et certains points doivent être révisés.
Minsk a repoussé la question, mais ne l'a pas résolue. Il n'a pas du tout résolu la question de la restitution de nos territoires. Et c'est la raison pour laquelle il voulait le conserver tel quel.
J'ai dit, je ne vais pas vous mentir, on ne sera pas capable de respecter les accords de Minsk tels qu'ils ont été rédigés, parce que ce n'est pas juste. Poutine a répondu, si vous changez les conditions maintenant, comment peut-on négocier avec l'Ukraine ?
Il a tapé sur la table et utilisé des mots dont même Mme Merkel s'est souvenue. Il était assez contrarié par la tournure de la discussion. Son entourage lui avait probablement promis que le président Zelensky serait désireux de s'adapter. Et ce n'était pas le cas.
Que personne n'est dans la région, il y avait un sentiment d'exaltation. On parlait enfin comme un pays qui devrait être écouté.
Je me souviens avoir dit au président Zelensky, on ne peut pas négocier avec lui, Poutine n'attend rien de nous. Il n'y a aucune récompense, aucun bâtiment ni aucune ville que vous puissiez lui donner en échange. Il ne veut simplement pas que nous existions.
C'était une fête nationale pour célébrer l'anniversaire de l'annexion de la Crimée. Après le plus grand exercice militaire mené par l'OTAN en Europe depuis des décennies, Poutine a annoncé de grandes manœuvres d'entraînement à la frontière de l'Ukraine.
Un matériel militaire a commencé. On a entendu un fort cliquetis d'armes à notre frontière. On savait que la Russie était assez agressive. Et pour être honnête, à ce moment-là, on n'était pas prêt pour une réponse armée. On avait besoin de temps pour préparer notre peuple et nos forces.
L'Ukraine avait essayé de devenir membre de l'OTAN. Mais des pays comme la France ou l'Allemagne avaient fait obstacle à ces démarches, dans la crainte de s'aliéner la Russie. Il a intensifié son lobbying auprès du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.
Je lui ai dit, je veux rejoindre l'OTAN. Puis, j'ai demandé, Jens, est-ce que vous nous voyez dans l'OTAN ? Parce que rien ne défendrait mieux notre pays que l'Alliance à proprement parler. Mais encore faut-il qu'on en soit membre.
J'ai dû lui dire que la réalité était tout autre que celle qu'il imaginait. Pour décider de l'adhésion, inviter un pays à devenir membre de l'OTAN, il faut un consensus. Il faut que tous les alliés...
rapidement annoncé la fin officielle de l'exercice militaire. Mais des milliers de soldats et de l'artillerie lourde sont restés à la frontière. Le nouveau président, Joe Biden, avait pris ses fonctions. Il avait déjà eu affaire à Poutine en tant que vice-président, et pour leur premier sommet, tous les espoirs étaient permis.
monté en puissance dans les médias, aux États-Unis et en Europe, d'un retour à l'époque de la guerre froide en termes d'épreuves de force entre superpuissances. Ils ont parlé très franchement des domaines sur lesquels on était en désaccord. Une différence fondamentale était la question de l'Ukraine. Poutine a clairement dit que l'Ukraine devrait être soumise à la Russie. Et c'est quelque chose avec lequel on était fondamentalement en désaccord. Mais on sentait qu'il fallait qu'on préserve notre relation avec la Russie pour ne pas aboutir à un conflit involontaire.
Biden ont été de courte durée. Alors que l'Occident était sous le choc du retrait chaotique des Américains en Afghanistan, les généraux de Poutine en ont profité pour faire étalage de leur puissance militaire. Les renseignements américains ne cessaient de recueillir des informations toujours plus inquiétantes.
Je tiraillais entre les griefs et l'ambition. On avait commencé à dresser un tableau assez clair et assez troublant de la planification militaire russe, qui, tant par son ampleur que par sa précision, était beaucoup plus évidente et beaucoup plus troublante qu'au printemps 2021. J'en étais arrivé à croire que le président Poutine avait l'intention de lancer une nouvelle invasion majeure en Ukraine.
A envoyé Bill Burns à Moscou pour confronter Poutine en personne en pleine pandémie de Covid.
Affrontait une des pires vagues de Covid que la Russie ait connue. Le président Poutine s'était isolé à Sotchi, et donc ma conversation avec lui s'est faite sur un téléphone sécurisé depuis un bureau du Kremlin. J'ai été très direct en exposant le message